Donc, bonjour à tous. Ce matin, je vous propose un survol du dernier discours de Jésus dans l'Évangile selon Jean, son discours d'adieu avant la croix, la résurrection et le retour vers son Père, c'est-à-dire les chapitres 13 à 17 de l'Évangile de Jean. Et ce survol va particulièrement se faire à travers trois recommandations qu'a données Jésus à ses disciples lors de ce discours, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres, gardez mes commandements, et demeurez en moi. Alors ce n'est pas une liste complète des recommandations de Jésus lors de cette dernière soirée, lors de ce dernier discours, et même certains auteurs en ont relevé 10. Mais parmi ces 10, j'en ai noté 3 particulièrement qui m'ont semblé importantes et sur lesquelles Jésus a insisté. Et avant de commencer à méditer ces 3 recommandations, nous allons un peu situer le contexte dans lequel elles ont été données par Jésus à ses disciples. Donc c'est lors du dernier repas. Et pour cela, nous allons lire les premiers versets du chapitre 13 de l'Évangile de Jean. Donc chapitre 13, versets 1 à 5. C'était juste avant la fête de Pâques. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariot, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de lui, qu'il allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qui se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples. Puis à les essuyer avec la serviette qui s'était nouée autour de la taille. Donc le premier verset de début nous dit que Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde et s'en aller auprès de son Père. Donc on voit que Jésus n'est pas, pendant tout ce discours et dans tous ces événements, Jésus ne va pas du tout être victime des circonstances. Il sait très bien ce qui se passe, les disciples ne le savent pas encore, il va leur annoncer. Jésus le sait. Nous, les lecteurs aussi, nous sommes mis au courant. Mais Jésus sait, et donc c'est intentionnellement. Et le verset d'après, c'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui était dans ce monde une marque suprême de son amour pour eux. Il y a dans ce « c'est pourquoi » de Jésus toute son intention. Le lavage des pieds, dans le contexte là, il n'est pas normal. Jésus, il quitte le milieu du repas pour laver les pieds de ses disciples. Dans le Moyen-Orient, à l'époque de Jésus, quand on invitait quelqu'un, le serviteur de la maison, quand les hôtes arrivaient dans la maison, il y avait les sandales pleines de poussière, il leur lavait les pieds. Mais c'est quand on rentrait dans la maison. Là, c'est une mise en scène que fait volontairement Jésus. Ça se passe au milieu du repas, ce lavage de pieds. Il quitte la table pour le faire. Donc on voit que là, Jésus vraiment ne fait rien au hasard. Il pense à tout et sa motivation profonde dans tout ce qu'il est en train de mettre en scène, ce lavage des pieds, c'est l'amour qu'il a pour les siens. Alors qu'il sait ce qui va lui en coûter de repartir vers son père, c'est-à-dire l'angoisse de Gethsémané dans le jardin, ce jugement inique, la croix avec ses souffrances et la séparation du père, il pense d'abord aux siens qu'il aime et qui sont dans le monde. Il se préoccupe des siens, il est en train de les préparer. C'est donc intentionnellement que dans ce passage, Jésus prend la condition et la tenue du serviteur pour laver les pieds de ses disciples. Et ça préfigure le sacrifice à la croix qui sera encore plus une marque suprême, la marque suprême de son amour pour eux, pour nous. Un amour purificateur comme le lavement des pieds. C'est ce que préfigure ce lavement des pieds. Il annonce déjà le sacrifice suprême de Jésus. Et parmi, et un petit aparté là, vous avez vu qu'il y avait parmi tous ceux qui bénéficiaient du lavement des pieds, il y a aussi Judas. Et si on continue encore un peu plus loin, on voit que Judas se tenait assez proche de Jésus pour recevoir directement de sa main le pain, symbole de communion, que Judas a malheureusement rejeté. Mais on voit jusqu'où va l'amour de Jésus. Et même si on se rappelle dans le jardin de Gethsémané, quand Judas va pour trahir Jésus par un baiser, Jésus le reçoit, il lui dit « Mon ami, c'est par un baiser que tu trahis. » Enfin, je ne me rappelle plus, mais en gros, Jésus jusqu'au bout a aimé Judas, tout en sachant ce qui se passait. Et Judas, jusqu'au bout, n'a pas compris, n'a pas voulu l'amour de Jésus. Donc, ce qui anime Jésus dans tout ce discours, qui va durer 4 chapitres, c'est l'amour et la gloire de son Père, et là, dans le contexte aussi, l'amour des siens, qui est vraiment mis en avant. Tout ce que Jésus va dire dans cette dernière soirée sera dans le but de les équiper, de les réconforter, de les consoler, de les guider, de préparer ses disciples à ce qui va se passer avant son départ, c'est-à-dire en fait de les aimer, quoi. Et puis le lavement des pieds se poursuit, et il y a le partage du pain. Judas sort pour préparer sa trahison, et à ce moment-là, Jésus sait que la sortie de Judas pour aller préparer sa trahison, c'est le début de tous les événements qui vont le mener jusqu'à la croix. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va dire pour la première fois le commandement « Aimez-vous les uns les autres ». Donc on va lire Jean 13, versets 31 à 35. Quand il fut parti, donc il parle de Judas qui vient de partir, de quitter, Jésus se retrouve avec les 11 autres disciples. Quand il fut parti, Jésus dit « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme éclate et Dieu va être glorifié en lui. Puisque Dieu va être glorifié en lui, Dieu à son tour va glorifier le Fils de l'homme en lui-même et il le fera bientôt. Mes chers enfants, je suis encore avec vous mais plus pour longtemps. Vous me chercherez et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis vous aussi maintenant, vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Donc, on voit dès le début, là, maintenant, la gloire du Fils de l'homme éclate et Dieu va être glorifié. Que la gloire du Fils et du Père vont éclater où, principalement ? Eh bien, à la croix. Car la gloire de Dieu, sa gloire, quand Dieu parle de gloire, c'est la gloire de faire grâce, de faire pardonner. Parce que si nous sommes pardonnés, si nous sommes aimés par Dieu, nous y sommes pourquoi ? Pour rien, dont la gloire ne revient pas à nous, nous n'avons pas acquis son pardon, nous n'avons pas acquis notre salut, c'est lui qui nous l'a donné. Donc toute la gloire revient à Dieu, et c'est à la croix qu'elle va éclater. Si on revient au verset, on va remettre le focus sur le commandement de s'aimer les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Alors, il y a plusieurs choses étonnantes dans ce commandement de Jésus. La première chose qui peut étonner à la lecture, c'est qu'il est présenté comme un commandement nouveau. Pourtant, par exemple, si on lit Lévitique 19, 18 du temps de Moïse, on peut lire dans les Écritures, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » On voit qu'aimer son prochain faisait déjà partie de la loi de Dieu et s'appuyer sur qui est Dieu, « Je suis l'Éternel », ça reflétait son caractère. Et même si dans l'Exode, il y a une forme aussi d'amour des ennemis, alors peut-être qu'il ne va pas jusqu'aux motivations, mais on voit dans la loi aussi, dans l'Exode, que l'amour des ennemis, ce n'est pas quelque chose qui va surgir complètement de nouveau. Donc on verra en quoi c'est nouveau. Par exemple, on lit Exode versets 4 et 5, 23 versets 4 et 5. « Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu ne manqueras pas de les lui ramener. Lorsque tu verras l'âne de celui qui te déteste, succomber sous ta charge et que tu n'auras pas envie d'aider cet homme, aide-le quand même à délester son âne. » Donc on voit qu'il y avait déjà cette notion dans les Écritures. Elle va être approfondie par Jésus, mais ce n'est pas là que se situe la nouveauté du commandement. La nouveauté du commandement, ce qu'il y a de nouveau, c'est que « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il y a un exemple qui nous est donné. C'est la mesure de l'amour selon Jésus. Saint Augustin a dit « La mesure de l'amour, c'est d'aimer sa mesure. » Et je crois que c'est ce que Jésus a fait pour nous, c'est ce que nous témoignent les Écritures. Et même, c'est, quand on lit bien le passage, c'est « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » L'amour de Jésus est premier, il est fondateur de notre amour les uns envers les autres. Et pareillement envers Dieu, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est ce que dit l'apôtre Jean dans une de ses épîtres. Si l'on revient au début du chapitre 13, et quand vous lisez les premiers versets, on va juste le lire un ou deux. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui était dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. Donc voilà, on commence à voir, et après ça donne après il se passe le lavage des pieds qui est en train d'anticiper d'être le symbole de ce qui va se passer à la crucifixion. Voilà le genre d'amour dans lequel Jésus nous a aimés. Donc, si on se fie à ça, on commence à avoir une idée un peu de la puissance et de l'incroyable renversement des valeurs qu'entraîne ce commandement. Il nous a aimés jusqu'à prendre la tenue et la condition du serviteur. Il a pris la tenue et la condition du serviteur envers ses disciples qui allaient le trahir. Et Jésus savait tout cela, hein, puisque dans les versets qui suivent l'avènement des pieds, il commence à annoncer la trahison de Judas. Il annonce le reniement de Pierre, on va le voir. Et plus tard, il va aussi dire à ses disciples qu'ils vont tous le laisser au jardin. Donc Jésus avance en pleine conscience et il donne son amour en pleine conscience de tout ce qui est en train de se passer. Et il est en train d'aimer des gens qui vont le trahir, il le sait. Hein, voilà l'amour de Jésus. On va le voir plus au chapitre 15, le don de soi. Quoi. Alors, et on voit aussi que cet amour a un cadre particulier dans ce passage-là, c'est la communauté des disciples. Là, cet amour particulier ne s'adresse pas à tous, c'est un amour particulier entre frères et sœurs, mais il va avoir un pouvoir attractif, inclusif envers ceux du dehors. Oui, le Seigneur nous demande d'aimer tous, mais en même temps, il y a un amour particulier entre frères et sœurs et qui va déborder jusqu'aux autres. Mais cet amour est souligné plusieurs fois, et entre autres dans ce passage. Cet amour-là ne va pas entraîner un repli sur soi, mais il va détonner avec ce qui se passe dans le monde. Et quand on lit la suite du passage, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que juste après cet amour, Jésus va parler de la trahison de Pierre, parce que Pierre va lui poser une question. On va lire dans Jean 13, versets 36 à 38. Simon-Pierre lui demanda, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Tu ne peux me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard, tu me suivras. » Mais Pierre reprit, « Et pourquoi donc, Seigneur, ne puis-je pas te suivre dès maintenant ? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Tu es prêt à donner ta vie pour moi ? » répondit Jésus. « Oui, vraiment, je te l'assure, avant que le coq ne se mette à chanter, tu m'auras renié trois fois. » Donc on voit que juste après cette citation du commandement nouveau de Jésus, il y a la trahison de Pierre, et au verset 37, on voit Pierre qui est sincère. Il pense vraiment qu'il est prêt à donner sa vie pour Jésus. Le texte ne nous dit pas que Pierre est en train de tricher avec ses sentiments, tout ça. Il est sincère, mais il est présomptueux de ses propres forces. En fait, Pierre ne pourra donner sa vie pour Jésus, contrairement à ce qu'il dit, que lorsqu'il aura compris, et ça se fera après la mort et la résurrection de Jésus, que ce dernier, Jésus, a littéralement donné sa vie pour lui. Là, Pierre pourra à son tour donner sa vie pour Jésus, quand il aura compris de quel amour il aura été aimé. Et même l'histoire d'Église nous témoigne que Pierre est littéralement aussi mort en martyr, qu'il allait jusqu'au bout de sa foi, de sa confiance en Jésus, quand il a compris combien Jésus a payé pour lui. Puis si on lit la suite de l'histoire, on voit Jésus qui rachète Pierre d'une manière incroyable. Donc cette notion d'amour, qui est un amour don de soi, on le retrouve aussi dans Jean 15, versets 12 et 13, on voit que c'est pas une simple émotion, c'est bien plus, c'est un amour don de soi. Jean 15, versets 12 et 13, c'est Jésus qui est en train de parler d'un discours qui parle de communion avec lui, et il dit, voici quel est mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc là, il y a une définition, il précise ce don, cet amour qui est lié au don de soi, hein. Donc on peut dire que nous savons être aimés du plus grand amour. Jésus nous a aimés du plus grand des amours. Donc s'il nous arrive de douter de l'amour de Dieu, s'il nous arrive de douter de l'amour de Jésus, regardons à la croix, rappelons-nous l'amour de Dieu manifesté d'une manière incroyable pour nous. Il y a des moments où on ne va pas le ressentir, mais par contre il y a eu des actes. Au-delà des émotions, il y a eu des actes. Le Saint-Esprit nous le communique, mais il y a des moments où on peut vivre des moments de sécheresse dans nos vies, mais ne doutons pas de l'amour de Jésus. Rappelons-nous ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Quelques versets plus loin, toujours dans le chapitre 15, au verset 17 du même chapitre, « Voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. » Donc ça revient plusieurs fois comme quelque chose de très important dans la bouche de Jésus. Et là, ça, « Voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. » Ça clôt une section où Jésus est en train de parler à ses disciples d'une communion avec lui, qui va déborder entre autres, qui va donner entre autres ce commandement. Et juste après, on va lire ce verset, le relire le 17 et lire le 18 pour voir le contraste qu'il y a avec ce qui peut se passer dans le monde des fois. Voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Juste après, si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Il y a comme un contraste qui est fait dans l'amour fraternel qui doit se, qu'on est appelé à vivre dans l'Église et qui est comme un avant-goût de ce qu'on vivra dans l'éternité, dans les nouveaux cieux, dans la nouvelle terre avec Jésus, et ce que parfois le disciple peut vivre aussi dans la société, peut vivre un certain rejet, voilà. Et les contrastes, c'est frappant d'un verset à l'autre. Il y a un auteur chrétien, un penseur chrétien du XXe siècle, Francis Schaeffer, il a écrit un petit livre sur l'amour fraternel, et le titre de ce livre, il a intitulé « La marque du chrétien ». À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. La marque du chrétien, c'est un livre de Francis Schaeffer qui parle de l'amour fraternel. Il y a encore, dans le discours de Jésus, j'ai noté encore deux autres références qui parlent de cette notion de s'aimer les uns les autres. Alors, ce n'est pas les mots qui sont utilisés en tant que tels, littéralement, mais on voit la demande de Jésus auprès de son Père au cours de sa dernière prière d'une unité entre nous. On va les lire, c'est dans la dernière prière de Jésus, toujours dans cette même soirée. Ce grand discours est clôturé par une prière où Jésus prie pour lui-même, pour les disciples qui sont autour de lui et pour ceux qui croiront en lui, c'est-à-dire nous, depuis 2000 ans, grâce au témoignage des disciples. Et par exemple, au verset 17-11, Jésus s'adresse à son Père et dit « Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. » Et au verset 22-23, dans la suite de cette prière, Jésus prie pour ses disciples et pour nous. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, donc toujours cet amour qui témoigne, et que tu les aimes comme tu m'aimes. » Déjà, là, on apprend qu'on est aimé par le Père du même amour qu'il a aimé Jésus, qu'il aime Jésus. Et puis on voit aussi que notre amour les uns pour les autres est le reflet de celui qui est entre en Dieu, entre le Père et le Fils. Et nous sommes au bénéfice de cette prière. Jésus a prié pour que Dieu nous garde dans cette communion fraternelle. Nous avons notre part, mais dès le départ, il y a une base, elle nous est donnée au départ. Alors, la deuxième recommandation importante que j'ai notée, c'est garder mes commandements. Alors, selon les versions, vous aurez respecté mes commandements, suivez mes enseignements. Moi, je crois que j'ai même suivi mes enseignements dans la mienne. Et ça revient quelquefois dans le discours. Là, on va voir Jean 14, chapitre 14, versets 15 à 17. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Donc, vous gardez mes commandements, c'est pareil. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements, et moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Alors, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements, et cette obéissance, juste après, il y a l'Esprit, le Saint-Esprit qui est introduit. Cette obéissance se fera par l'Esprit, comme nous venons de le lire. Et puis c'est ça, par contre, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose, si c'est nouveau, c'est Jésus qui l'introduit, qui introduit ça, qui introduit la nouvelle alliance, l'Esprit qui demeure dans tous les croyants. Mais par contre, c'est quelque chose de prophétisé que Jésus accomplit, comme tout ce qu'il a fait. Par exemple, si on lit, c'est même une des conditions de la nouvelle alliance prophétisée par les prophètes, c'était que, oui, prophétisé par les prophètes, c'était que l'Esprit allait résider dans le croyant et allait transformer son cœur afin que le croyant, que ceux qui croient aient envie d'obéir. Ça se retrouve particulièrement dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27. C'est le Seigneur qui parle. Hein. Je, c'est le Seigneur là. Je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit. Et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Donc on voit que cette obéissance se fait par le Saint-Esprit qui change les cœurs. En même temps que dans la vie chrétienne, ces commandements ne peuvent se vivre réellement que par le Saint-Esprit, pas par nos propres forces évidemment. Et en même temps, on voit que Jésus parle de suivre ses enseignements ou de garder ses commandements comme une preuve d'amour et non pas pour gagner son amour, c'est toute la différence évidemment. Il introduit le Saint-Esprit sans qui cette vie n'est pas possible. Dans le même chapitre, au chapitre 14, les versets 21 et 23, les mêmes principes sont à nouveau énoncés. C'est Jésus qui parle toujours, chapitre 14, verset 21. « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi je lui témoignerai mon amour et me ferai connaître à lui. » Jude, qu'il ne faut pas confondre avec Judas Iscariot, lui demanda « Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera, nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. » Il y a encore cette notion du Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous aide à accomplir la volonté de Dieu, évidemment. Et pareillement, en fait, notre amour va être exprimé par notre obéissance. Donc c'est une obéissance par amour, une obéissance de racheter, quelqu'un qui est racheté et qui est reconnaissant et qui aime celui qui l'a racheté, hein, et de racheter en qui Dieu demeure par le Saint-Esprit. Ben, même dans la vie de tous les jours, même si par exemple un fiancé n'est pas prêt à faire des kilomètres, à sacrifier pour son confort pour celle qu'il aime, ah, je ne peux pas, aujourd'hui il pleut, ah, je viendrai une autre fois, ben, est-ce qu'il aime vraiment ? Est-ce que le monde n'attend pas des preuves d'amour aussi ? Ben, dans notre relation avec le Seigneur, c'est la même chose. Hein, si l'obéir nous pèse, si on se retrouve dans une phase, ça peut nous arriver, où lui obéir nous pèse, si on n'a plus envie de chercher sa volonté pour la mettre en pratique, eh ben, on peut voir cela comme un symptôme. Ben, quand on a la fièvre, qu'est-ce qu'il fait le docteur ? Il se dit qu'il doit avoir une infection. Il cherche où l'infection. Il regarde la gorge, il regarde les oreilles. Si on a des boutons qui poussent, ben, le docteur dit « Ah, ça c'est des boutons de varicelle, ça c'est des boutons de ça. » Il y a des symptômes dans la vie qui aident le médecin à trouver ce qui ne va pas. Ben, nous, si on n'a plus envie de marcher avec le Seigneur, c'est un symptôme tout simplement que nous devons peut-être nous rapprocher de lui et remettre des priorités dans nos amours, de l'ordre dans nos amours, redonner au Seigneur Jésus la première place qui lui revient dans nos amours. On va voir la troisième recommandation. Et puis après, là, à la fin, on lira les trois, on verra que les trois se recoupent. La troisième recommandation du Seigneur, celle de demeurer en lui. Alors d'abord, on peut lire en Jean chapitre 14, toujours versets 10 et 11, que déjà Jésus est dans le Père et que le Père est en Jésus. On va le lire. Alors c'est Jésus qui parle à Thomas, qui voulait voir le Père. Il dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne le nie pas de moi-même. Je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous avez vu accomplir, que vous m'avez vu accomplir. » Donc cette notion de demeurer en, elle se retrouve déjà dans la Trinité, dans la relation entre le Père et le Fils. Tout comme « aimez-vous les uns les autres », qui se retrouvait déjà dans la Trinité, parce que le Père aimait le Fils et le Fils aimait le Père. Et ainsi que la notion d'obéissance qu'on a vue tout à l'heure, « gardez mes commandements », qui elle aussi prend sa source à la Trinité. Le Père, le Fils obéit au Père. En fait, tous ces commandements sont le reflet dans la vie du disciple de Jésus, de ce qui se vit déjà en Dieu, dans la Trinité. Ce sont des commandements qui sont liés à notre relation avec Dieu, avec Jésus-Christ. Ils ne peuvent se vivre qu'en relation avec Jésus-Christ. Et quant à demeurer en moi, pour les disciples, pour nous, concrètement, elle va être beaucoup développée, cette notion, au chapitre 15. En Jean 15, versets 4 à 10, le verbe « demeurer » est présent 10 fois. Et là, on va lire quelques versets. Alors, on va lire le verset 4 et 5 du chapitre 15. « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne pourrait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc nous sommes appelés à porter du fruit en demeurant en Jésus-Christ. Et comment pousse le fruit ? Ben, le fruit pousse sur le sarment qui puise sa vie dans le cep, dans la souche. C'est une conséquence de la vie du cep, de sa sève. Et dans tout le chapitre 15 de Jean, si on lisait le verset 1 à 17, on ne va pas lire, on verrait que ces trois recommandations que nous venons de survoler aussi se recoupent, se mélangent, elles sont interdépendantes les unes des autres. On va lire quelques versets de ce chapitre, pas tout, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi. On va lire les versets 9 à 12 du chapitre 15. Comme, donc c'est toujours Jésus qui parle, comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Donc on voit comment se maintenir dans l'amour de Christ. Eh bien, en obéissant à ses commandements. Donc, demeurer dans son amour et garder ses commandements se recoupe. Hein. On voit dès le début, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il y a déjà cette relation entre le Père et le Fils. Et Jésus nous appelle à imiter cette relation. Hein. Nous sommes appelés fils de Dieu. Et on voit donc Jésus qui dit comme moi-même, j'ai obéi au commandement de mon Père, je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Donc on voit que le Fils a obéi au Père et y a trouvé une joie complète. Il y a une joie dans l'obéissance. Le Saint-Esprit se réjouit en nous quand nous sommes dans la volonté de Dieu. Et en fait, tous les slogans de la société actuelle veulent nous faire croire en fait, que la liberté, c'est de faire ce que l'on veut en n'écoutant que soi-même, ses désirs et sa volonté. C'est un mensonge puissant qui n'est pas nouveau parce qu'il trouve un écho dans nos cœurs pécheurs depuis la rébellion d'Adam et Ève. C'est comme ça que le diable a eu Adam et Ève, en leur faisant croire que Dieu n'était pas un Dieu bon, mais un Dieu qui voulait les empêcher de plein de choses. Et ça a marché. Et depuis, le péché s'est introduit, ça fait écho chez nous. Hein. En fait, la vraie liberté, c'est de vouloir ce que Dieu veut et d'y trouver notre joie. C'est être libéré du péché. Hein. Le problème, en fait, dans nos vies, ce n'est pas l'obéissance à Dieu en tant que tel, à un Dieu juste et bon. C'est ce qu'il y a de plus raisonnable que d'obéir à un Dieu juste et bon. Le problème, c'est notre cœur pécheur. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit régénère nos cœurs, qu'on doit naître de l'Esprit, comme on l'a vu tout à l'heure, et que ce n'est qu'un début. Toutes nos vies chrétiennes continuent comme cela, par des transformations par le Saint-Esprit. Hein. Et quand nos cœurs sont transformés, habité par l'Esprit de Dieu, ben notre volonté va suivre les nouvelles inclinations de notre nouveau cœur. La volonté, elle arrive à la fin. Elle suit notre cœur qui est en communion avec le Seigneur. Et la volonté du Seigneur se trouve dans sa parole qui est illuminée par le Saint-Esprit. Tout ça, c'est un cercle vertueux. Jésus, en qui il n'y avait pas la moindre parcelle de péché, aimait obéir à Dieu. Il trouvait sa joie là-dedans. Ok ? Donc l'obéissance, c'est quelque chose de positif. Même si on veut nous faire croire le contraire actuellement, c'est quelque chose de positif. Et Jésus trouvait sa pleine joie là-dedans. Il dit aux disciples, j'ai envie de vous communiquer cette joie. Cet été, j'étais en vacances en Corse et sur un marché, à un moment, j'ai croisé une personne avec un t-shirt sur lequel était écrit « Do what you love ». En français, « Fais ce que tu aimes ». Puis, bon, je sais que les gens ne sont pas toujours conscients de ce qu'ils portent sur leur t-shirt, surtout quand c'est en anglais. Mais moi, ça m'a interpellé, puis je me suis mis à réfléchir. Et je marchais comme ça, je réfléchissais, est-ce que je dois faire ce que j'aime ou est-ce que je dois faire ce que je pense être juste? Si quand quelqu'un me dérange ou m'énerve ou que j'aime pas quelqu'un, est-ce que parce que ça me fait du bien que j'aime ça, je dois lui hurler dessus ou est-ce que le Seigneur a une autre voie pour moi? Est-ce que je dois tout faire ce que je pense que je dois faire? Do what you love. Ou est-ce que je dois faire ce qui est juste? Donc j'étais en train de réfléchir à tout ça, et puis j'ai dit je vais l'écrire, parce que des fois quand on réfléchit à des trucs, ça se perd après. Donc je l'ai mis par écrit, et ça a pris la forme d'une prière où je disais, Seigneur, apprends-moi à aimer ce qui est juste, afin que, quand je pratique la justice, ce ne soit pas un fardeau légaliste, mais un acte d'amour envers toi et tes commandements, et envers mon prochain. Apprends-moi par ton Saint-Esprit à aimer ta volonté, à aimer ce que tu aimes, à désirer ce que tu désires, à penser ce que tu penses, à ressentir ce que tu ressens. Le psaume 37 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc notre cœur sera aligné sur celui du Seigneur si le Seigneur fait nos délices. Augustin, il a résumé ça simplement, ce n'est pas de la Bible, mais je trouve que c'est bien résumé aussi. « Aime Dieu et fais ce que tu veux. » Parce que si tu aimes Dieu, tu ne vas pas faire n'importe quoi. Tu vas vouloir le suivre et suivre ce qu'il dit dans sa parole. Donc, On vient de voir comment demeurer en Christ. Ben, comment on fait pour demeurer en Christ ? Ben, c'est en gardant sa parole, en suivant ses commandements. Et quelle forme va prendre, vont prendre ces commandements dans ce passage, cette obéissance ? Quelle forme particulière ? Eh bien, ça va être dans l'amour du prochain, et principalement. Celui qui aime son prochain accomplit toute la loi. Il y a un verset qui le dit dans la Bible, je n'ai pas noté la référence. Et on va le voir dans le verset 12. Voici quel est mon commandement. Donc juste avant, il dit que obéir à ses commandements lui permet de demeurer dans son amour. Et puis verset 12, voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Donc on voit qu'il y a un lien entre tout ça. Notre amour pour Dieu, pour Jésus, va passer par notre amour pour les autres. Notre service pour Dieu va passer par un service les uns pour les autres. Il y a une autre notion importante dans le petit passage qu'on vient de lire, c'est celle de l'amitié avec Dieu. Donc on voit quelle est la différence entre un ami et un serviteur. Eh bien, le serviteur, il obéit par obligation, sans connaître le cœur et les pensées de son maître. L'ami, lui, il a le privilège d'être aimé par le maître qui a donné sa vie pour lui. Là, on parle de Jésus, hein, et qui lui révèle, lui communique sa pensée et ses plans. Excusez-moi. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon père. Et juste avant, il y a, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, l'ami n'est pas dispensé de l'obéissance. Ce n'est pas ce qui différencie le serviteur de l'ami, l'obéissance. Ce qui différencie, c'est la motivation de son obéissance. L'ami obéit par reconnaissance envers Jésus qui a donné sa vie pour lui et qu'il a introduit dans la relation avec son père. Je relisais l'Exode cet été-là, et j'ai été, à un moment, le Seigneur m'a parlé, parce que je relisais toutes les conditions qu'il y avait pour s'approcher du Seigneur dans l'Exode, comment seule, une seule personne pouvait s'approcher, le grand prêtre, une seule fois par an, dans le Lucien, après beaucoup de rituels de purification. Et puis chaque fois que je lisais tous ces rituels, j'étais béni par ce que Jésus-Christ avait fait pour nous, et comment c'était un privilège et une grâce. Et que des fois, on pouvait être, enfin, je parle pour moi, on pouvait oublier, devenir, je ne sais pas comment dire, familier, je ne sais pas comment l'exprimer, ne plus réaliser ce privilège immense que l'on a, quoi, de s'approcher du Dieu Saint grâce à ce que Jésus-Christ a fait pour nous, quoi. Donc, on est appelé à une obéissance par reconnaissance, par amour, qui va tout simplement prouver notre amitié. Jésus, il est notre ami, vraiment. Il est mort pour nous, il nous l'a prouvé. Est-ce que nous sommes l'ami de Jésus dans notre relation ? Posons-nous la question sans condamnation, parce que c'est à ça que nous appelle le Seigneur, à développer une relation d'amitié avec lui. Alors, tout le passage que nous venons de lire aussi nous appelle à porter du fruit, hein, aller dans le monde porté. Comment ? En demeurant en Jésus, c'est-à-dire en gardant sa parole, ses commandements, et principalement, ça va se faire en s'aimant les uns les autres. C'est là où on va manifester le cœur de Dieu et c'est là où on va tirer les gens. Hein. Donc c'est un cercle vertueux qui ne peut exister qu'en demeurant attaché à Jésus, qu'en étant en communion à Jésus. Si vous lisez tout le passage de Jean 15, de 1 à 17, ça commence par le cep qui est attaché au serment et puis ça continue tout le long comme ça. Donc on va prier pour clôturer, on va prier pour demander que le Seigneur nous travaille dans ce sens. Prions. Seigneur, nous sommes bien conscients que c'est toi qui nous as aimés le premier, d'un amour sans limite, et qu'ici-bas nous ne pourrons jamais aimer parfaitement comme tu nous as aimés. Mais c'est à cela que tu nous appelles. Merci de nous faire grandir en toi, de nous transformer de plus en plus à ton image, en attendant le jour où nous serons parfaitement semblables à toi, comme tu nous l'as promis, Seigneur, lorsque tu reviendras nous chercher. Merci pour ta grâce présente, merci pour ton